L'imposture, première partie, chapitre 2. Pourquoi l'image s'imposa-t-elle aussitôt à son esprit d'un homme si différent de lui, si peu fait pour l'entendre? L'abbé Chevance, ancien curé de Costerelles-sur-Meuse, actuellement prêtre habitué à l'église de Notre-Dame-des-Victoires. Fût-ce le seul nom qui se présenta, car le nombre est petit des amis fidèles qu'on réveille à 2 heures du matin, fût-ce pour une autre raison plus profonde et plus urgente, il n'eût su le dire, et ne s'en soucia jamais plus. Il vivait déjà dans son rêve, et de ce rêve, il ne devait attendre nul merci. C'est avec un calme apparent qu'il décrocha le récepteur du téléphone. L'abbé Chevance habitait une petite chambre au dernier étage de l'hôtel Saint-Étienne, rue Vide-Gousset. Il chercha le numéro sur l'annuaire. Le veilleur, tiré de son somme, d'ailleurs ahuri par une démarche aussi tardive, se fit répéter 3 fois la consigne. « Veuillez prier l'abbé Chevance de venir ici d'urgence, chez moi, pour une affaire grave. »« Un malade ?» demandait l'autre. « Un mourant !» répondit l'abbé Sénabre posément. L'auteur de la vie de Gerson a connu l'abbé Chevance au petit séminaire de Nancy. De 15 ans plus âgé que l'illustre historien, il était alors second surveillant à la division des petits. Leurs relations furent banales, mais elles ne devaient jamais être tout à fait rompues. En 19, le curé de Costerelles dut quitter le diocèse de Verdun après une manière de scandale dont les journaux radicaux tirèrent habilement parti. L'innocence était avisée de réciter les prières de l'exorcisme sur la tête d'une fille devenue démente et la terreur de 2 villages. On doit dire néanmoins à sa décharge qu'il avait été procédé à la cérémonie le plus discrètement possible sur la demande d'un oncle de la pauvrette, le seul parent qui lui resta, ancien bedeau de Notre-Dame-de-Grâce à Lirouville. Malheureusement pour le desservant de Costerelles, 3 longs séjours à l'asile d'aliénés du département n'avaient eu d'autre résultat que d'exaspérer la folle dont le médecin-chef avait prédit la mort imminente. Sa guérison inattendue fut considérée par tous les gens de bon sens comme une provocation imbécile capable de faire le plus grand tort à la paix religieuse dans le diocèse. Car ce fut à la paix religieuse que l'abbé Chevance se sacrifia. En dépit des consolations et des encouragements de l'évêque, qui, ne condamnant que l'imprudence et rendant justice aux intentions, offrait une autre paroisse aux prêtres repentants, l'infortuné crut sa réputation perdue, son honneur sacerdotal en péril. L'idée ne lui vint même pas du tort injuste qu'il avait subi, mais l'indulgence de ses supérieurs, leur bonté, disait-il, achevèrent de le réduire au désespoir. Il se crut désormais indigne du ministère, ou du moins de toute autorité. Dans son âme d'enfant, certaines contradictions, qui paraîtraient à d'autres intolérables, sont acceptées telles qu'elles subsistent sans débat. Aussi ne doutait-il pas d'avoir agi envers sa folle selon le précepte de la charité, accompli son devoir. Mais il ne doutait pas non plus que l'irritation de ses chefs fût légitime. Le bruit fait à propos d'un acte si simple était une preuve assez forte de son impardonnable maladresse, bien qu'il n'eût su dire comment, car tant d'années passées n'ont pas encore affaibli le scrupule de sa divine simplicité. On l'entend raconter l'humble tragédie de sa vie sur le même ton que jadis, celui d'un remords qui resplendira dans le ciel. L'intervention de l'abbé Sénabre lui valut l'hospitalité du diocèse de Paris et un modeste emploi à Notre-Dame-des-Victoires. Il lui en sut un gré infini. Dans ce rôle obscur, ce qui avait été le curé de Costerelles-sur-Meuse acheva de se défaire aux yeux des hommes, disparut. La timidité extraordinaire, un moment réprimée par les responsabilités d'un petit État, s'accrut de jour en jour, devint une infirmité touchante et ridicule dont le monde s'amusa. Elle était sa croix, sans doute, mais toute croix est un refuge. Ce travers ridicule masquait aux yeux de tous une hardiesse dans les voies spirituelles, un sens extraordinaire de la grâce de Dieu. Timidité non point seulement physique, comme il arrive, mais terreur véritable du jugement d'autrui, de son attention même. Si soigneusement qu'il s'efforça de passer inaperçu, d'effacer derrière lui sa trace, les rencontres inattendues de la vie parisienne le jetaient dans la consternation. Que de confrères de son ancien diocèse, où il avait laissé la réputation d'un brave homme inoffensif, le mirent ainsi à la torture. Car il n'était pas loin d'imaginer, ne devoir qu'à la protection de l'abbé Sénabre, d'être toléré à la dernière place, dans les rangs de ce clergé parisien si instruit, si raffiné, dont il ne parlait jamais qu'avec une réserve comique. Cette réserve, à la longue, parut suspecte. Les uns la tinrent pour un signe d'indigence intellectuelle, les autres y virent une réprobation déguisée. C'est que, d'année en année, le rayonnement de son âme singulière allait s'élargissant. Il était moins facile de l'ignorer. L'excès de sa prudence, même, avait fini par créer autour de lui une légende qu'entretinrent ses ruses innocentes. Ainsi, maintenu hors de la hiérarchie paroissiale régulière, familier des besognes les plus serviles, en toute occasion maître Jacques est bon à toute fin, le pauvre curé de Costerelle-sur-Meuse avait néanmoins obtenu de suppléer au confessionnal quelques-uns de ses brillants collègues. Puis, peu à peu, suppléant toujours, il en était venu à y passer le plus clair de son temps. Sa crainte avait d'abord été grande de paraître ainsi lésé des droits établis, car comment ne pas courir le risque d'attirer par-devers soi une pieuse clientèle, les pénitents de conséquence, infidèlement détournés de leur directeur légitime. Jamais prédicateur à la mode, enragé de succès mondain, ne témoigna d'autant de persévérance et de zèle à séduire ces belles pécheresses que l'ancien desservant à trouver et retenir les plus délaissés, les moins enviables brebis, les plus diffamés du troupeau. Cuisinière matinale, le panier au bras, petite modiste à midi, croquant les noix du dessert, deux sous à la main pour le tronc de Saint-Antoine de Padoue, dévotes à profil de jument, vieillards humbles et calamiteux, collégiens, transfuges de M. l'aumônier, il recueillit tout, le cœur plein de joie, rassuré par la médiocrité du butin. Hélas, si les pénitents d'occasion ne furent pas autrement remarqués, les malicieux vicaires eurent vite fait de reconnaître, parmi les habitués de l'abbé Chevance, quelques-unes de ces maniaques, amusements et terreurs des paroisses, démangés de fautes imaginaires, affamés d'un humble ragoût sacrilège, et qu'on voit rechercher avec mélancolie le confesseur sévère, comme leur sœur méconnue, l'amant qui les rosse. On en sourit d'abord, puis les plus folles écartées, le curé de Costerelle-sur-Meuse, parmi ses infirmes et ses déchus, s'éclaira d'une lumière étrange et surnaturelle, difficile à pardonner. Le scandale qui avait fui si loin, et pourquoi il était né sans doute, le venait chercher de nouveau, jusque dans sa mansarde. Un bel esprit lui donna même un nom, il l'appela « confesseur de bonne ». Le mot fit fortune, il courut les salons bien pensants. L'historien Hénard de Clergery pensa même s'intéresser un moment à ce vieil original et se le fit envoyer, sous un prétexte subtil, par un vicaire général de ses amis auquel l'infortuné prêtre n'aurait certes rien osé refuser. Puis la timidité, la politesse un peu basse du bonhomme finit par décourager sa bienveillance. La disgrâce eût même été complète sans la protection, jugée indiscrète, de Mademoiselle Chantal, fille de l'éminent auteur de l'Église du XIIe siècle. L'abbé Sénabre alla ouvrir la porte à tâtons, posa la main sur le bras du visiteur et l'introduisit dans sa chambre en silence. Ce silence acheva de déconcerter le confesseur des bonnes. N'ayant pas osé prendre la parole le premier, redoutant d'avoir ainsi manqué à un devoir élémentaire, plus anxieux encore d'une entrevue si mystérieuse, à une telle heure de la nuit, il osait à peine lever les yeux sur son protecteur, dont la tenue singulière lui était un tourment de plus. Le chanoine, en effet, avait jeté sur ses épaules un manteau fourré, mais ayant négligé de passer dessous sa soutane, il offrait au regard effaré du curé de Costerelle-sur-Meuse ses fortes jambes gainées d'une culotte noire, les pieds nus dans des pantoufles. Le manteau ouvert découvrait aussi le torse massif sous la chemise. Asseyez-vous, dit l'abbé Sénabre avec une certaine douceur, asseyez-vous et pardonnez-moi d'abord de vous avoir dérangé. Pardonnez-moi cette fantaisie ridicule. » L'abbé Chevance, debout près du lit, s'assit dessus. Le sommier grinça terriblement. Il se releva aussitôt. « Monsieur le chanoine, mon cher et illustre ami, je vous demanderai, j'aurai à vous demander premièrement des nouvelles de votre santé, et aussi du cher malade, pour lequel... »« Il n'y a pas de malade, » répondit sèchement l'abbé Sénabre. « Il n'y a pas de moribond. Je regrette même un mensonge dont le sens exact, je le crains, vous échappera. Toutefois, je n'ai pas le droit de prétendre l'avoir fait à la légère, inconsidérément. J'avais à vous parler sans retard, voilà tout. » « Je suis à votre disposition, » murmura l'abbé Chevance, de plus en plus inquiet. « Je puis avoir commis quelque faute involontaire. L'indulgence qu'on a pour moi ne va pas non plus sans péril. Je voudrais pouvoir rompre, sans indélicatesse, avec beaucoup de ces gens dont l'amitié m'honore pourtant grandement. Il est ridicule à un pauvre prêtre de se laisser voir, par exemple, chez l'excellent monsieur le comte de Clergery, à son éminence le nonce. Mais laissons cela, reprit-il, car la figure de son interlocuteur s'assombrissait à mesure. Je suis prêt à vous écouter. Mon ami, dit l'abbé Sénabre, j'ai pensé à vous aujourd'hui, parce que votre simplicité m'a toujours été une assistance réelle à certaines heures de ma vie. Le monde, je dis celui que je vois de plus près, est plein de menteurs effrontés. Les mains de l'abbé Chevance élevèrent au ciel une protestation désespérée, mais il se reprit presque aussitôt et baissa les yeux sans répondre. À ce double geste, l'abbé Sénabre répondit en dessous par un regard dur. « J'ai besoin que vous consentiez à être cette nuit mon témoin, » fit-il brusquement. L'étonnement fit trembler la voix du pauvre prêtre. « Je ne comprends pas. Je ne saisis pas dans quelle mesure je puis vous être nécessaire ou seulement utile, et qui pourrait prendre sérieux, en faveur d'un homme tel que vous, une caution si misérable. Au moins, je puis parler franchement à un confrère, lui ouvrir mon cœur. Cette conversation, aujourd'hui, cette nuit, je souhaite ne pas vous offenser en la qualifiant d'un peu extraordinaire, surprenante même. Cet entretien, quelle qu'en soit la conclusion, vient après, à la suite d'autres circonstances, non moins inattendues, qui peuvent paraître en quelque sorte un piège, oh, du diable, s'écria-t-il avec une étonnante naïveté. Il réfléchit un moment, sous le regard toujours dur. J'aurai tout à l'heure à vous entretenir, sans doute, de la confiance dont m'honore une personne admirable, exceptionnelle, faite pour m'édifier, dont je n'aurai plutôt à recevoir que des leçons. Mademoiselle Chantal de Clergery. Sa voix ne tremblait plus. J'assiste avec une espèce d'épouvante, véritablement avec terreur, à l'ascension vers Dieu, vers les plus hautes cimes de la contemplation, d'une âme assurément visitée par le Saint-Esprit, déjà hors de nous. Ah, je sais à qui je m'adresse. Je n'ai pas beaucoup le temps de lire, je lis peu, mais je n'ignore pas que vous avez l'expérience, une grande expérience des âmes saintes, des âmes choisies. Il est vrai que Mademoiselle Chantal reste, grâce à Dieu, inconnue, mais comment ne pas craindre pour elle? Voulez-vous que nous laissions là Mademoiselle de Clergery? Dit simplement l'abbé Sénabre. Il parut hésiter encore. Il jeta sur l'abbé Chevance, resté court, un regard de pitié. Qui n'eût dédaigné ce vieillard dans son enfantine confusion, avec son sourire forcé, servile et ses mains tremblantes? « Je traverse, mon ami, » dit enfin l'auteur des mystiques florentins, revenant à son insu au langage élégant, « la crise la plus soudaine, la plus aiguë qu'on puisse imaginer. Si j'ai retrouvé mon sang-froid, je l'avais assurément perdu tout à l'heure. » On n'est pas maître du soulèvement de toutes les puissances de l'âme, d'une pareille lame de fond. Un cri de détresse vient aux lèvres. Je ne l'ai pas retenu. Je n'en ai pas honte. Vous saurez, vous serez seul à savoir quelle cruelle détresse explique, excuse certaines résolutions, certains actes que la méchanceté calomnie. On m'accuse déjà de sécheresse, d'insensibilité. Vous voyez hélas que ni la réputation, ni peut-être le talent, je le compte pour rien, ne mettent à l'abri des assauts les plus humiliants. Dieu me garde de vous en demander, pour le présent, témoignage. Mais si je m'ouvrais de ces choses à quelqu'un de ceux qui m'admirent et croient m'aimer, je ne serais pas compris. Votre cœur simple et sincère en jugera mieux. Ne vous en défendez pas, mon ami. À travers les épreuves qui m'attendent, je mets très haut la consolation de savoir que dans le silence et le secret, un prêtre aussi surnaturel que vous m'assiste de sa compassion. Et j'ajoute encore que si la Providence en disposait ainsi, vous garderiez ma mémoire. » À mesure que ces paroles tombaient dans le silence, il en démêlait avec une sourde irritation contre son naïf auditeur le vrai sens, et ce sens était vil. Contraint de donner un prétexte plausible à ce qui eût volontiers paru un geste inexplicable, il allait tout droit à la vérité, la dénonçait malgré lui. Ce qu'il n'eût peut-être osé s'avouer à lui-même se lisait en clair dans ses phrases embarrassées. En dépit de la comédie de terreur, à demi-consciente, qu'il s'était joué, tout s'ordonnait peu à peu, comme si, dès la première minute, l'esprit demeuré lucide s'était tracé son plan. Le cri de détresse n'était que feinte. Il n'avait obéi, d'instinct et d'abord, puis délibérément, qu'à la nécessité capitale de prendre ses sûretés, de se trouver un alibi. Une hypocrisie profonde organise ainsi du dedans son mensonge et ne se sépare de lui que par un effort de la raison après avoir été sa première dupe. Dois-je comprendre, dit l'abbé Chevance avec désespoir, que vous pensez vous en remettre à moi dans une conjoncture aussi grave? Il me semble, permettez-moi, excusez-moi, que ceci n'est qu'un mauvais rêve. Ou, si vous voulez seulement m'éprouver, à quoi bon? J'ai la plus grande estime, je veux dire la plus respectueuse admiration, pour vos talents, votre gloire, les services que vous rendez à l'Église. Il vous serait si facile de me prendre au piège. Quand j'aurai montré ma sottise, vous rirez de moi, vous aurez bien raison. Mais, sa voix se fit réellement suppliante, on saura cette misérable histoire, le rôle que j'aurai tenu, on parlera de moi de nouveau, qui sait, on finira par se lasser de mes folies, du scandale. J'ai payé si cher, monsieur le chanoine, une erreur de ma jeunesse, une faute de tact. Je ne reviendrai pas sur ce malheureux sujet, je vous dirai simplement, ne me mettez pas en cause par jeu. N'ajoutez pas à mes peines. Si je perds la situation si honorable, si avantageuse, qu'on a bien voulu m'accorder dans un diocèse qui n'est pas le mien, où l'on compte tant de valeurs, que deviendrai-je? Ah, mon respectable ami, je le sens, je l'avoue. Depuis quelques mois, je commets des imprudences, je me laisse mettre en avant, je tente sottise sur sottise. Ne me les faites pas payer trop cher. » Rien ne saurait rendre l'expression du regard dont l'abbé Sénabre enveloppa le vieillard suppliant. Puis il haussa violemment les épaules. « Vous me croyez capable d'étranges petitesses, dit-il. Je regrette de vous avoir tellement bouleversé. Convenez cependant que je me suis bien avancé pour pouvoir maintenant reculer. D'ailleurs, je me tiens toujours à un premier choix que j'ai fait. Oui, si étrange que cela vous paraisse, j'ai besoin de vous, dans une des circonstances les plus graves, je puis dire les plus tragiques de ma vie. Une terrible, décisive épreuve, un trouble. » Mais il s'interrompit brusquement, comme pour mieux voir, à son inexprimable surprise, l'ancien curé de Costerelles-sur-Meuse, qui, poussant discrètement vers lui le prie-Dieu, de l'air d'un homme qui ne se dérobera plus, disait avec un calme apparent, bien que de grosses gouttes de sueur perlassent à son front, « S'il en est ainsi, monsieur le chanoine, je vous écoute. » Puis il fit le signe de la croix. Une colère à peine contenue gronda dans la voix de l'abbé Sénabre. « Je ne vous demandais pas de m'entendre en confession, mon ami. Ne vous pressez pas tant. » Il appuya sur les derniers mots avec intention et un sourire si cruel que le pauvre prêtre rougi jusqu'à la racine de ses cheveux blancs. Et néanmoins son humble regard brilla tout à coup d'une assurance sacrée. « Je ne puis que cela pour vous, » fit-il de sa voix toujours tremblante. « Par moi-même, je ne suis rien. Laissez-moi céder la place à Dieu. Je ne ferai pas la folie de me fier à mes propres lumières. Non, non, je ne commettrai pas cette folie. » Il tira de sa poche son gros mouchoir de coton et s'essuya fébrilement le front et les joues. La forte main de l'abbé Sénabre pressait son épaule et il parut fléchir sous l'étreinte. « Monsieur, dit le prêtre, si vous craignez pour votre repos et de vous compromettre, allez-vous-en. »« Oh, monsieur le chanoine, s'écria l'abbé Chevance, les yeux pleins de larmes, je n'ai pas mérité cela. » Pour la première fois peut-être depuis tant d'années, le pauvre homme sentit quelque chose qui ressemblait au mouvement d'un juste orgueil offensé. Une seconde, il eut conscience de sa force, il en sentit l'élan irrésistible. Toutefois, dans l'innocence de son cœur, il s'attendait plutôt à la confidence de quelque faute grave, dont l'aveu eût été trop difficile, fait à un autre que lui. Et quelle faute le trouvait rétif? Quel bout l'eût rebuté? Déjà sa main se levait pour bénir, et la miséricorde divine dont il était plein frémissait dans sa paume, confondue à l'effusion de sa propre vie. D'ailleurs, l'humble supplication de son regard était telle que l'abbé Sénabre y répondit malgré lui. « J'ai perdu la foi, » dit-il. Et il ajouta aussitôt d'un accent beaucoup plus calme, « Je me suis débattu cette nuit dans des ténèbres exceptionnelles. J'en suis à ne pouvoir remettre une décision irrévocable que la simple honnêteté intellectuelle impose. À la question qui m'est faite, esquivée si longtemps, je dois répondre loyalement par oui ou par non. » Il parlait ainsi en marchant de long en large, tête basse. Au dernier mot, il s'arrêta face à son interlocuteur. Le visage candide de l'abbé Chevance exprimait un soulagement infini. Fût-ce la déception d'un coup manqué, fût-ce la confusion de s'être ainsi découvert pour rien, l'abbé Sénabre pâlit. « Que n'avez-vous parlé plus tôt ? » disait l'autre de sa voix douce. Qui peut se croire à l'abri de cette sorte de tribulation? Moi-même, mais une intelligence comme la vôtre l'éprouve sans doute plus vivement. Dans une pareille conjoncture, se débattre est vain. On ne peut pas grand-chose pour soi-même. Laissez-vous apaiser, mon cher, mon bien-aimé maître et ami. Laissez Dieu revenir de lui-même. Je m'en vais prier pour vous. » Et il chercha son chapeau sur le lit, se tourna vers la porte, l'ancien curé de Casterel, prêt à faire comme il avait dit. « C'est donc là tout ? » s'écria l'abbé Sénabre avec un rire forcé. « La chose vous paraît si simple ? Vous me trouvez bouleversé, hors de moi. Ma seule démarche auprès de vous le prouve assez, mais vous n'en êtes pas autrement ému. Ou peut-être vous me jugez capable d'être à ce point torturé par des imaginations de petite fille ? Hélas, sachez-le, mon ami. » La croyance n'est pas arrachée d'un homme tel que moi sans un atroce débat. Les circonstances, plutôt que ma volonté, font de vous l'unique spectateur de cette tragique aventure. Encore un coup, allez-vous-en. » De nouveau les larmes vinrent aux yeux de l'abbé Chevance. « Ce n'est pas cela, pas du tout cela, » murmura-t-il désespéré. « J'aurais prié, j'aurais demandé des lumières pour vous et pour moi. » Mais vous abandonnez, mon protecteur, un fidèle ami, mon Dieu, vous m'auriez bientôt revu. En êtes-vous sûr ? S'écria furieusement l'abbé Sénabre. J'ai songé sérieusement à me tuer cette nuit. Comment cette parole vint-elle ? D'où vint-elle ? Lui-même n'eût su le dire. Il n'eût su dire non plus si elle était un mensonge. À peine proférée, à supposer qu'elle ne fût qu'une provocation vaine, l'attitude du vieux prêtre, sa terreur silencieuse, bien différente de son habituelle agitation, lui donna sur-le-champ une réalité sinistre. Sans doute il n'était pas vrai que l'abbé Sénabre eût réellement délibéré de se tuer. La pensée ne lui en était même pas venue. Il avait jeté cela comme une injure. Et néanmoins, il sentit une fois de plus, avec une rage absurde, que la parole imprudente le liait autant qu'un aveu. Dans quel rêve, dans quel cauchemar frénétique s'agite-t-on ainsi pour voir se rétrécir autour de soi l'espace libre, se fermer toutes les issues? Il avait voulu un témoin favorable, bien qu'imprudemment appelé, dont le moins habile eût su tirer parti, et il n'aboutissait stupidement qu'à se trahir. Contre qui, contre quel obstacle invisible, la haine dont il se découvrait plein? Cette fois, l'abbé Chevance le regardait bien en face, de ses yeux tristes. D'ailleurs, il ne fit aucune plainte, ne formula aucun reproche. Il dit seulement avec une extraordinaire dignité « Je ne puis plus désormais vous entendre hors du sacrement de pénitence. » Il fit à nouveau le geste de se retirer. L'abbé Sénabre le devança. « Me croyez-vous capable ? » commença-t-il d'une voix tonnante. « Nous sommes capables de tout, » répondit le vieux prêtre humblement. Mais aussitôt son regard se durcit, et l'historien de Gerson reçut ce coup en pleine poitrine. « Je voudrais plutôt vous croire victime d'une telle pensée que capable de vous l'attribuer faussement. » Il hésita encore une seconde, et avec une poignante tristesse, « Je ne puis vous permettre de vous servir de moi pour offenser Dieu, » dit-il. L'abbé Sénabre sourit amèrement. « Je renonce à me défendre. Vous êtes libre. Qui vous retient ?» Il le vit glisser plutôt que marcher vers la porte, son chapeau sous le bras, si pâle, si las, d'un air de soumission si basse qu'une rage le prit de laisser échapper ce prêtre ridicule avec son secret. Mais au fond du cœur, sa déception était plus forte encore du silence qu'il ne pouvait rompre, de la solitude incompréhensible où depuis quelques heures il était tombé. Prières, menaces, mensonges, cris de fureur ou de désespoir, il semblait que rien ne pût dépasser le cercle enchanté. Il était comme un homme qui crie au bord de la mer. La fureur l'emporta pourtant. La même haine mystérieuse cherchant toujours son objet et qu'il avait déjà soulevé de colère contre le blême pernichon, le jeta tout tremblant face à un nouvel adversaire. Il ne mesura point son élan. Il étendit seulement le bras et le frêle vieux prêtre pirouetta sur lui-même, cherchant vainement un appui de ses mains ouvertes. Les semelles cloutées glissèrent sur le parquet ciré. Il tomba à genoux, son chapeau à côté de lui, lamentable. La honte, plutôt que la pitié, tira de l'abbé Sénabre une espèce de gémissement. Il restait muet devant sa grotesque victime, la discernant à peine, toute son attention tendue vers l'événement intérieur, le jaillissement irrésistible, la force inconnue, surnaturelle. Qu'était cette passion soudaine, frappant de tels coups dans sa poitrine? Il ne vit pas l'abbé Chevance se lever, il ne vit pas la vieille main s'emparer de la sienne, il n'entendit pas la voix pourtant si douce, encore frémissante d'une terreur enfantine, et soudain elle sonna terriblement à son oreille. Tout son corps, d'un imperceptible écart, sitôt retenu, esquissa le bond d'une bête traquée. Puis le regard surgit de nouveau dans ses yeux. « J'aurais désiré que vous me bénissiez, » disait tristement l'abbé Chevance. « J'aurais voulu vous demander cette grâce avant de vous quitter pour jamais. » Sa voix était tendre et pleine d'une pitié si divine que l'orgueil le plus sourcilleux s'en fut trouvé ému. Il n'évitait pas, il cherchait maintenant les yeux sombres, tandis que s'abattait sur le prêtre célèbre, ainsi qu'un aigle sur sa proie, la compassion d'une âme de feu. « Oui, disait le confesseur des bonnes, dans l'affreuse épreuve où je vous vois, tout autre acte de notre ministère vous serait certes impossible. » Mais lequel d'entre nous, sous les pieds même du diable, ne pourrait valablement bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ah, mon ami, cela est vrai, cela est sûr. Vous pouvez, sans sacrilège, appeler sur un frère à peine moins misérable que vous cette grâce dont vous êtes à présent vide. Écoutez-moi, faites ce signe au moins, même avec indifférence, même dans la perversion de la volonté. Qu'importe si vous croyez ou non à cette minute, et quand chaque battement de votre cœur serait un blasphème et un dépit. Si vous ne pouvez implorer la miséricorde pour vous, ah, faites au moins le signe qui la dispense aux pécheurs. Souhaitez-moi seulement d'être heureux. C'est ainsi que ce prêtre extraordinaire, avec une ténacité sublime, tentait sa chance suprême, lançait le dernier appel susceptible d'être entendu. Il voyait, il tenait sous son regard, il touchait presque l'âme forcenée frappée à mort. Il n'espérait plus rien d'elle qu'un signe, un seul signe, à peine volontaire, à peine lucide, quelque chose comme le clin d'œil qui consent, sur la face pétrifiée de l'agonie, un rien, la brèche où put passer de tout son poids immense, la formidable pitié divine, qu'il entendait rugir autour du réprouvé encore vivant. La révélation lui en venait d'être faite en un éclair, il n'eût su dire comment, et il allait l'oublier aussi vite, il était tout entier dans son effort, il ne mesurait pas son coup. Bien au-delà de sa propre raison, à mille lieues de son corps chétif, qui même alors gardait son attitude humiliée, craintive, sa charité, elle seule, discernait, jugeait, agissait. Qui peut voir avec les yeux de l'ange ? L'homme qu'il disputait aux ténèbres était toujours là, devant lui, dans sa forte carrure, son front pâle sans une ride, les yeux baissés. Mais il s'étreignait dans le ciel. Par degrés, la conscience revenait à l'abbé Sénabre, bien qu'il ne s'arrachât qu'au prix d'un grand effort à sa contemplation intérieure. Ce qui se formait en lui échappait à toute prise de l'intelligence, ne ressemblait à rien, restait distinct de sa vie, bien que sa vie en fût ébranlée à une profondeur inouïe. C'était comme la jubilation d'un autre être, son accomplissement mystérieux. De ce travail, il ne savait ni le sens ni le but, mais la passivité de toutes ses facultés supérieures au centre d'un ébranlement si prodigieux était justement une volupté dont son corps vibrait jusqu'aux racines. Il acceptait, il recevait dans sa propre nature la force mystérieuse, il la subissait avec une joie terrible. À ce degré d'abandon de soi-même, à ce déliment total, aucune raison si péremptoire, aucune menace, aucune injure n'eût obtenu de lui-même un soupir. La prise était d'autant plus forte qu'elle s'était refermée à l'improviste. La résistance avait été brisée d'un coup. Il contemplait encore l'abbé Chevance avec hébétement. La voix, tour à tour impérieuse et suppliante, avait frappé parfois son oreille, sans émouvoir son cœur, mais il en avait retenu les mots prononcés. Sa mémoire les ayant enregistrés, les reformait mécaniquement. Dans l'effusion de son affreux bonheur, cette plainte, ce dernier appel n'avait pas de sens, ou du moins pour le saisir, il devait remonter peu à peu les profondeurs de sa joie. La lenteur du retour lui fit mesurer l'énormité de sa chute. Car si étroitement qu'il nous presse, l'ange obscur, maître de la volonté, sent tressaillir sous lui, au moment suprême, la chair qui l'a trompé, la chair qui flaire la mort. D'ailleurs, tout se passa dans le temps d'un éclair. Enfin, il put voir, il put fixer clairement le vieux prêtre, tremblant non plus de crainte, mais de pitié. L'élan pour fuir, dont l'abbé Sénabre était incapable, son désir même, dont la source était tarie, il les retrouvait, sans les reconnaître, dans le regard du dernier ami. La grâce divine, depuis des mois il n'en sentait même plus l'absence, se montrait encore une fois. C'était comme la face d'un cadavre au fond des eaux, c'était comme un cri plaintif dans la brume. La clairvoyance de l'apôtre, ou plutôt sa sublime charité, l'avait inspiré de solliciter du malheureux cela seul dont il était encore capable. Une muette imploration, pas même un effort de sympathie, moins peut-être un mouvement de compassion pour sa propre déchéance. Rien n'en parut au visage contracté de l'abbé Sénabre. Sa récente fureur s'y marquait encore, car le vertige l'avait saisi brusquement, traîtreusement. Aucun signe n'avait témoigné au dehors de la joie suspecte dont il avait connu la première et définitive possession, ou peut-être la figure humaine ne saurait-elle l'exprimer. Aucun signe ne témoigna non plus de sa suprême hésitation, du dernier faux pas sur la route implacable, et pourtant la miséricorde l'assaillait à son tour, se ruait sur lui. Si forte en fut l'étreinte, qu'il sembla que son corps même y répondit. Le regard ne s'adoucit point, mais il s'y forma, pour se dissiper aussitôt, une lueur hagarde, ainsi que d'un homme assommé. Son bras, sur la prière de l'abbé Chevance, se leva pour bénir. Il s'en fallut d'une imperceptible fraction de temps. La raison gagna de vitesse. L'angoisse se fondit en un moment. Le rêve hideux s'ouvrit ainsi qu'une nuée, découvrant cette part stérile de l'âme que l'ironie avait dès longtemps consumée. Le sens critique, si vanté, de l'éminent écrivain l'emporta. Quelque chose qu'il ne nommait déjà plus s'écarta de lui d'une fuite oblique. La scène tragique, dont il avait instantanément perdu le sens, la clé, ne lui parut plus que l'insupportable parodie d'un vrai drame, et il crut en découvrir la ridicule affectation. Sa pâleur, surprise de nouveau dans la glace, le tremblement de ses mains, tous les signes persistants d'une angoisse dont venait de se délivrer sa raison, lui firent honte. Il eût voulu les effacer sur le champ, ainsi qu'un acteur fourvoyé dans un mauvais rôle jette avec rage sa défroque. Si le dégrisement n'avait pas été si brusque, si total, peut-être eût-il encore passé sur la béchevance sa colère et sa déception. Mais il avait trop hâte d'en finir, de reprendre après le délire incompréhensible le fil de sa vie quotidienne, de se retrouver enfin. À son insu, il était d'ailleurs à bout de force. Il dit seulement, avec un profond soupir, « Je renonce à comprendre quoi que ce soit à la crise que je viens de traverser. Il me semble que j'ai retrouvé mon bon sens lorsque je vous ai vu prêt, mon pauvre ami, à vous laisser gagner vous-même à la contagion de ma folie. » Le cri désespéré du prêtre retentissait encore dans la chambre close, mais la parole glacée de l'abbé Sénabre aussitôt l'abolit. Et d'ailleurs l'ancien curé de Costerelle-sur-Meuse parut comprendre, inclina sa tête, et ne fut plus au moment qu'un pauvre homme. « Comme on nous connaît peu, nous autres prêtres, » continuait la voix devenue lente et grave, « comme nous sommes séparés du monde. » Beaucoup voient en ma modeste personne un écrivain dressé aux disciplines de l'intelligence, attentif, méfiant par nature et vocation, familier jusqu'au désenchantement des cas de conscience les plus délicats. Et pour avoir une fois goûté à cette tentation du doute, analysé tant de fois dans mes livres, je perds tout contrôle sur moi-même. Je parle et j'agis comme un démon. Ah, qu'il faut peu gratter le prêtre d'expérience et d'âge pour retrouver le séminariste, sa foi un peu farouche, ses scrupules, ses terreurs. Vous le savez, mon ami, nous le savons tous. Aussi m'avez-vous déjà pardonné. Ah, mon Dieu, sans doute, il est vrai, monsieur le chanoine, répondit l'autre avec un extraordinaire bégaiement. Je ne puis véritablement. Comment pouvez-vous penser que je garde le souvenir de ces... Enfin, d'un... Il ne put jamais achever. Le calme de son interlocuteur semblait agir sur lui comme un charme. Il était visiblement à la merci de l'homme supérieur qui le fixait d'un regard dur. J'aurais moins sottement agi en suivant d'abord vos conseils, continua Sénabre, sans élever le ton, mais avec une force écrasante. Oui, dans une pareille conjoncture, se débattre est vain. Se détourner d'une tentation vaut mieux que lui résister en face, et si j'avais présumé de mes forces, j'en suis bien assez puni. Il n'y a pas de meilleur remède, ni plus simple que la paisible observation de nos devoirs, dans un esprit de confiance et d'abandon. Mais il me reste néanmoins quelque chose à faire. Il est bon, il est juste que je répare en quelque mesure, non pas l'offense, votre charité y a pourvu, mais le scandale. Mon vénérable ami, je désire que vous m'entendiez en confession. Non, dit l'abbé Chevance. La riposte partit comme une balle. Que le malheureux homme eût souhaité de la rattraper. J'estime à cette heure, balbutia-t-il, j'ai lieu de supposer, bien loin d'émettre un jugement définitif. Puis, comme si le courage lui eût décidément manqué, le reste de ses paroles se perdit dans un bredouillement confus. Sa misérable tête s'inclina encore un peu plus sur l'épaule. Il fit sans doute, pour ne pas fuir, un effort douloureux. Son corps, si étrangement humilié, parut comme tassé par une crainte aveugle. Et tout à coup, au plein de sa ridicule détresse, ce cri lui fut encore arraché. « Non, je ne puis me prêter à cette illusion sacrilège. » Aussitôt il mendia du regard un impossible appui, mais rencontrant les yeux de l'abbé Sénabre fixés sur lui avec une sollicitude presque tendre, il eut un mouvement de recul si spontané, si farouche, que le rouge monta au front du chanoine. « Avez-vous peur de moi ? » dit-il doucement. Son sang-froid retrouvé, il ne doutait plus de l'imprudence inouïe qu'il avait commise en affolant comme un plaisir ce prêtre dont il connaissait pourtant l'âme. L'auteur de la vie de Gerson n'est point homme à subir aisément la duperie d'une force matérielle, et la plus violente colère l'eut à ce moment moins effrayé que les signes de cette panique où son expérience subtile discernait la révolte absolue, irrésistible, d'un cœur impossible à soumettre. Le mépris peut être soutenu, on fait sa part à la haine, on peut prendre à revers par un détour une indignation qui fonce, mais ce bonhomme irréductible allait lui échapper à jamais. Un mot de plus et c'en était fait. Il avait pour toujours ce juge obscur, confident d'une heure, reperdu dans la foule, mille fois plus dangereux dans son obscurité même, désormais insaisissable. Sans doute la naissante réputation du confesseur des bonnes ne lui conférait encore qu'une autorité assez mince et sur un petit nombre d'esprits. Mais ce n'était pas ses entreprises que redoutait surtout l'abbé Sénabre. Sa volonté, dès ce soir, tendue à abolir jusqu'au souvenir de la crise qui avait failli l'abattre, au moins détruire son repos, son œuvre, sa renommée, rencontrait l'obstacle de ce témoin fatal. Le secret de la nouvelle vie, allait dans un instant passer son seuil, cheminer à travers le monde, certitude trop dure à son orgueil déjà si sauvagement éprouvé. Il sentit que la ruse manquerait le but ou qu'elle serait gagnée de vitesse, non pas avec emportement, mais avec une audace délibérée. « Qu'allez-vous raconter de moi ? » dit-il. « Mon Dieu ! » s'écria le pauvre prêtre, « Monsieur le chanoine, je n'ai rien à raconter. » « Si fait, répondit l'abbé Sénabre, après un silence, que vous ayez vu clair ou non, le sais-je moi-même, et qu'en ce que vous prévoyez devrait être, je demande, lorsque vous m'avez trouvé tout à l'heure en plein désordre, en pleine angoisse, m'avez-vous cru ? M'avez-vous plaint ? Était-ce là l'épreuve d'une âme fausse et basse ? Ne me suis-je point défendu ? N'ai-je point souffert ? » L'abbé Chevance l'arrêta d'un regard indéfinissable. « Et après, continua l'abbé Sénabre, car je n'attends pas une réponse aux questions que je viens de poser, ne pensez-vous point qu'il faille un peu de temps pour que votre simple honnêteté s'arrange des faiblesses et des contradictions particulières à un homme dont la vie intellectuelle vous est si peu connue ? Et d'ailleurs, à quel prix obtiendrai-je de vous contenter tout à fait ?» Le vieux prêtre répondit aussitôt, à voix très basse, redoublant de déférence et de respect, avec une douceur déchirante, par ses paroles impitoyables, « Monsieur le chanoine, il vous faut seulement tout quitter, tout rendre. » L'abbé Sénabre, sans cesser de sourire, fit un geste qui pouvait signifier tour à tour l'incompréhension et la stupeur. Le miracle fut que l'autre reçut ce sourire, s'en empara, le rendit avec joie, ainsi qu'un docile élève au maître indulgent. « Comprenez-moi, monsieur le chanoine, poursuivit-il en agitant ses longues mains maigres, « nous sommes si malheureux qu'il arrive que notre vie tout entière soit, à notre insu, comme dérivée en quelque sorte de Dieu au diable. Je m'exprime mal. Imaginons plutôt une source perdue dans une terre aride et souillée. Ce que le Seigneur nous octroie, je dis de plus précieux, les souffrances du corps et de l'esprit, l'usage que nous en faisons, à la longue, peut les avoir corrompus. Oui, l'homme a souillé jusqu'à la substance même du cœur divin, la douleur. Le sang qui coule de la croix peut nous tuer. » Il respira fortement. « Vous avez trop attendu, reprit-il. Vraiment, véritablement, monsieur le chanoine, vous vous êtes trop refusé. Il n'y a plus rien à faire de l'angoisse dont vous parlez. Elle vient trop tard, et malgré vous, vous ne l'utiliserez pas. Elle vous détruira plutôt. Elle vous jettera dans la haine. N'accusez pas Dieu, monsieur le chanoine. Cette angoisse, il vous l'a, pour ainsi dire, proposée, comme on fait boire, gorgée par gorgée, un remède au petit enfant. vous n'avez pas seulement voulu y goûter. Il vous faut maintenant la vider. Videz-la vite. Au fond du verre, vous ne trouverez rien qu'un dernier jet plus âpre et plus brûlant. Mon Dieu, je suis si maladroit, si peu habile à convaincre. Je voudrais exprimer ceci, que votre épreuve est stérile, ne commence rien, qu'elle appartient tout entière à la part de votre vie que vous devez rejeter. Ne gardez rien, non, ne gardez rien de cette part-là. Elle est pourrie. Elle est pourrie jusqu'au cœur de l'aubier. Je vois votre œuvre elle-même. La connaissez-vous ? Demanda froidement l'abbé Sénabre, mais d'un ton sans malveillance. Non, sans doute, riposta vivement l'abbé Chevance. Puis il s'arrêta sur cet aveu, dont il comprenait tout à coup l'invraisemblance. Un véritable désespoir se peignit dans son regard. Le désespoir de la certitude éblouissante que la parole venait de trahir n'exprimait plus, n'exprimerait jamais plus. Un instant, il fut sur le point d'en appeler de son apparent mensonge à la clairvoyance surhumaine qui le justifiait. Il n'en eut pas la force. Une deuxième fois, l'abbé Sénabre, d'un mot, l'avait rejoint dans le ciel, rattrapé, instantanément rendu à son état de pauvre homme. « Je suppose, dit-il honteusement, je ne fais qu'une supposition. Enfin, j'aurais voulu. Je sais qu'il est nécessaire, reprit-il, que vous anéantissiez le passé. » Sa voix s'étrangla, les larmes montèrent à ses yeux, et désormais incapable d'achever, comme étouffé par l'effusion de sa terreur et de sa pitié, il répéta plusieurs fois cette supplication naïve, dont le sens véritable ne fut connu que des anges. « Allez-vous-en, allez-vous-en !» L'abbé Sénabre ne répondit qu'après un long silence. « À peine ceci pourrait-il s'entendre, fit-il enfin, d'un homme qui aurait manqué à tous ses devoirs. Par bonheur, il n'est rien ici de pareil. J'ai rempli tous les miens avec exactitude, sinon avec enthousiasme. Je les ai respectés, sinon aimés. Sans doute, je n'espère pas de me justifier entièrement. Dites-moi toutefois, si vous ne trouvez point à la réflexion, enfantin de prétendre quitter son passé comme on quitte le gîte d'une nuit. Ce n'est pas nous qui disposons du passé. Ce n'est pas nous qui le tenons, c'est le passé, plutôt, qui nous tient. » L'abbé Chevance se taisait. Je retiendrai néanmoins quelque chose de ces paroles sévères. Il est vrai que mes travaux absorbent toute ma vie, qu'un prêtre aussi humble et zélé que vous êtes peut se scandaliser de me voir trop attaché, en apparence, aux vanités mondaines et réellement trop passionné des choses de l'esprit, enfin, si peu sacerdotal. N'ayant à me reprocher aucun manquement capital, ni même grave, j'ai cru trop aisément qu'on se peut dispenser de cette surveillance de l'âme, en un mot, de ce contrôle fort et subtil que nos vieux maîtres appellent du beau nom de l'oraison. La critique n'y supplée point. La familiarité, pour ainsi dire, professionnelle, dans laquelle je vis depuis longtemps auprès de ces hommes, d'une spiritualité si haute et si parfaite, m'a fait illusion. Je reportais inconsciemment sur moi leur ressemblance. Hélas, la charité nous peut unir et confondre en un même cœur. Mais l'univers intellectuel est une solitude claire et glacée. Oui, l'intelligence peut tout traverser, ainsi que la lumière l'épaisseur du cristal, mais elle est incapable de toucher ni d'étreindre. Elle est une contemplation stérile. Sa voix eut ici un léger frémissement d'impatience, et sur les derniers mots perdit tout à fait son aplomb. D'ailleurs, pourquoi ce discours? Vous devez le trouver sot. Il l'est, puisqu'il est vain. Dans ce moment, je ne raisonne plus. Je veux que ma vie soit simple, régulière, quotidienne. J'entends que nul ne sache, pour sa propre inquiétude ou son scandale, la tentation où vous m'avez vu près de disparaître si lâchement. Nul ne saura ce que je souffre. Je tâcherai de l'oublier moi-même. Je ne renierai point le passé, sinon secrètement, car les actes n'en furent pas répréhensibles, mais peut-être les mobiles ou les intentions. Pourquoi risquerais-je de troubler le prochain? Je reprends ma vie où je l'ai laissée, à la dernière étape, tranquillement si je puis, fermement, ainsi qu'on redresse un sillon. Non, je n'ai pas perdu la foi. Cela n'est point. J'étais fou. J'allais seulement oublier que l'abstention n'est pas vertu, qu'il y faut encore de l'âme, la recherche passionnée, le grand cri vers le Père, le cri de douleur et d'appel, une espérance indomptable. Que parlez-vous encore de tout bouleversé? Si je suis ici ou là, qu'importe. Notre attitude est de peu. Et d'ailleurs, vous tomberez d'accord avec moi qu'à cette place où l'on me voit, il y a des convenances à garder. Car du dedans, votre expérience des âmes en sait assez là-dessus, c'est du dedans qu'il faut reprendre et réformer. La tâche n'est pas aisée, mon ami, mais je ne la crois pas au-dessus de mes forces. J'étais, si vous voulez, inerte, insensible, non point mort. Cette crise l'a prouvé. La recherche intellectuelle m'a détourné un temps de ma voie. Néanmoins, je n'ai pas cessé d'aimer Dieu. À ces mots, le prêtre, qui avait écouté humblement ce discours embarrassé, chancela comme d'une blessure reçue à la face. Une anxiété surhumaine éclata dans ses yeux, tandis que tout son vieux corps jeté en avant, toujours gauche même dans la terreur ou la colère, semblait protéger derrière lui une présence sacrée. « Ne dites pas, ne dites pas !» cria-t-il avec une violence sauvage. « Non, vous ne l'aimez pas !» Ce cri fut tel que l'abbé Sénabre s'écarta brusquement, leva le bras, ainsi qu'on part un coup. « Monsieur, mon cher ami, monsieur le chanoine, reprit-il, et cette fois d'une voix déchirante, ayez pitié de moi, ayez pitié d'un misérable auquel Dieu vous a remis aujourd'hui. Et je ne puis rien pour vous. Je vous vois vous enfoncer comme un plomb. Mon Dieu, j'aurai ce compte à rendre. Il me sera demandé compte de vous. Voulez-vous donc me perdre? Je n'ai aucun espoir, aucune éloquence. Je suis un prêtre stupide. On ne me méprise pas assez. Il n'y a pas de cœur si lâche. Pourquoi ai-je été choisi cette nuit? Ce sont des raisons qu'il vous faudrait donner, une image vraie de vous-même, et je n'ai de votre malheur qu'une vision incommunicable. Mon Dieu, je vous vois terriblement, et tout me manque. Comment veut-il que je me fasse connaître de vous? Il le sait, juste tout préféré, tout, le sacrifice même de ma pauvre vie, à l'aveu que je dois vous faire, à l'humiliation de proférer devant vous une parole si incroyable. Regardez-moi. Il faut que je ne perde rien de cette honte, il faut que je la donne pour vous tout entière. Je ne puis vous fournir aucune preuve de ma mission, rien que ma parole, rien que mon misérable serment. Je vous jure que l'esprit m'inspire ainsi. Je jure que vous m'êtes ouvert ainsi qu'à une mère le regard de son enfant. Je vous vois. Je vois périr votre âme. Cette révélation est faite à un vieux sot incapable d'en tirer parti. Mon Dieu, je ne puis qu'en témoigner et en témoigner encore avec la certitude de mon impuissance, avec une rage désespérée. Aucune fermeté n'eût pu soutenir le spectacle que l'abbé Sénabre avait en ce moment sous son regard. Certes, la fureur sacrée de son débile adversaire lui était devenue incompréhensible, et le moindre secours venu du dehors lui eût rendu assez de force ou de sang-froid pour en sourire. Mais quelque chose remuait en lui à l'écho d'une voix familière, la dernière qui lui parlait ce langage, et c'était comme un pressentiment d'une amertume ineffable que jamais, plus jamais, jamais, il ne connaîtrait cette surnaturelle pitié, car il ne la désirerait jamais plus. Et peut-être déjà même, au plus secret de son cœur, il la haïssait. Mieux, mille fois mieux vaudrait pour vous la révolte et le blasphème, poursuivait l'ancien des servants, les mains croisées sur sa poitrine. Ah, monsieur le chanoine, dans le blasphème, il y a quelque amour de Dieu. Mais l'enfer que vous habitez est le plus froid. Il décroisa les mains, laissa tomber ses bras et demeura un moment face à son redoutable adversaire. L'étonnement qu'exprimait le visage de l'abbé Sénabre ne paraissait pas fin, ni feinte l'amertume de sa bouche abaissée. Plutôt qu'un cri de colère ou l'éclat d'un mauvais rire, son fort et solennel silence réduisaient à rien les paroles qui venaient d'être dites ou les frappaient de stérilité. Une minute encore, l'abbé Chevance essaya de soutenir ce silence, puis ses lèvres formèrent une espèce de gémissement, et il disparut.